Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC de retour pour terminer ce débrief de cette saison 2024. Oui, c'est le premier épisode de 2025, mais nous, on va rester encore sur cette fin de saison qui a été incroyable. Une des saisons peut-être les plus serrées de l'histoire, où il s'est passé 12 milliards de choses. Le programme de l'épisode du jour, le bilan de ce qu'on appelle le midfield, c'est-à-dire le milieu de tableau, quoi. La classe moyenne de la Formule 1, avec un énorme focus sur Alpine. Bien évidemment, cette saison de dingue, qu'on a peut-être d'ailleurs du mal à analyser. On n'arrive pas à savoir si finalement l'écurie française, fameuse écurie française, d'ailleurs il y a un vrai débat, est-ce que c'est encore une écurie française, en tout cas si l'écurie française a vraiment apporté des évolutions au cours de sa saison. On va débriefer tout ça, surtout qu'il y a une petite actu qui est tombée, Colapinto, notre ami argentin, a signé pour Alpine, donc on va vous expliquer tout ça. Revenir également sur les perfs de Haas, Aston Martin, RB, Sauber, bref, on va faire un tour de toutes les plus petites écuries du plateau, et puis on va revenir avec nos ingénieurs sur les premiers pas également de Lewis Hamilton avec la Scuderia Ferrari, parce que ça y est, Hamilton a roulé avec ses nouvelles couleurs, et franchement c'est la grande classe. Les ingénieurs du paddock qui sont avec nous aujourd'hui, Louis Gerbier et Paul Lafitte. Salut les gars.
Salut Nico, salut Polo.
Salut Nico, salut Louis, bonjour à toutes et à tous.
Bon les gars, on se la termine cette saison 2024 là aujourd'hui, hein. On se termine le débrief et après on bascule sur 2025. Il y a plein de choses à dire. Hein.
C'est ça.
Et voilà, donc, hein, je crois qu'il y a des petites choses qui se passent autour de Modène, une petite ville italienne en ce moment.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et puis il y a l'ami Colapinto les gars, le chouchou, il est là, il est là dans les rétros. Oh là là, ça va être un gros, on va expliquer tout ça à nos auditeurs. Allez, c'est parti pour ce paddock RMC. Allez, on va partir sur notre focus Alpine. Je vous rappelle la saison d'Alpine qui est une saison totalement dingue parce que pleine de rebondissements. Alpine qui a terminé 6e du championnat constructeur. On s'en souvient, ils sont allés chercher ces précieux millions là grâce à leurs deux pilotes. Il y a un début de saison cauchemardesque, Louis. Et puis, il y a ce Grand Prix du Brésil où tout bascule. Ça, c'est sur l'aspect sportif. Et puis derrière, il y a l'aspect extra-sportif avec la gestion du Kaokon, avec tout ce qui s'est passé, l'arrivée de Briatore, la fin des moteurs, bref. Mais pour l'instant, restons focus sur le sportif, Louis. Comment tu analyses cette saison si tu avais une note à mettre, déjà, combien tu mettrais à Alpine? Franchement, c'est difficile à juger au final cette saison.
C'est tellement, entre le début, la fin, le milieu, tu te dis, bon, alors, il faudrait mettre du négatif sur les 6 premiers mois au niveau de la note. Mais après, en fin de saison, quand même, il y a une certaine régularité, une certaine solidité, même de la performance, justement, au Brésil. Donc, à la fin, et surtout une sixième place aussi, qui, quand même, tu vois, qui est dans la poche, quoi. Donc,
ah ouais, c'est clair que donc, si tu es cartésien et que tu prends le résultat, c'est bien.
Voilà, c'est ça. Difficile, quand même, de mettre la moyenne après ce début de saison. Mais tu peux pas non plus leur mettre une tôle. Je mettrais un 8-9, tu vois. Sur 20, ouais. Évidemment.
Est-ce qu'on englobe les perfs des pilotes dans notre débrief de l'écurie Alpine? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, Gasly et Ocon, cette année, ils ont été... Bah, ils font partie de l'écurie, bien évidemment, mais ça a été tellement un peu ceux qui ont surnagé, qui ont permis à la marque de s'en sortir. Paul, que tu vois, je me demande si, dans ce débrief de la saison d'Alpine, on ne doit pas dissocier Gasly et Ocon du reste de l'écurie.
Ben, ça me semble un petit peu difficile quand même, parce que, enfin, Louis le rappelait, et tu le rappelais aussi, ils faisaient partie, puisque Ocon est parti de cette écurie, et c'est vrai que tout le monde gardera en mémoire cet extraordinaire résultat au Brésil. Alors je serais peut-être un petit peu moins sévère que Louis, et j'attribuerais tout juste la moyenne à un 10, alors que Louis était à 8 ou 9, un 10, parce que quand même, malgré tout, il y a eu ce double podium, et puis cette deuxième partie de saison, qui a été quand même au-delà de toutes les espérances, au vu des 6 premiers mois qu'évoquait Louis il y a quelques instants. Donc allez, j'aurais du mal à les dissocier, puis je mettrai un petit 10 sur 20 à l'écurie française, si on peut dire que c'est une écurie française, évidemment.
Ouais, oui, bien sûr. Ça, si Jean-Luc Roy nous écoute, bien évidemment.
Et il nous écoute,
Oui, bien sûr qu'il nous écoute, le GOAT, Jean-Luc. Non, mais en fait, là où les gars, moi, je... En fait, tout bascule au Brésil. On est d'accord, Louis. Tout
Bah
bascule au
oui.
Brésil. Tu prends 35 points sur ce week-end. Double podium. Extraordinaire, la belle histoire. Mais en fait, cette course, elle n'arrive pas s'il n'y a pas ces conditions-là, météo. Elle n'arrive pas, cette course-là, dans
Ouais.
des conditions normales. Donc, en gros, avant cette course-là, Alpine est derrière Williams. Ou juste devant Williams, je ne me rappelle plus d'un petit point. Mais en
ils
tout cas,
sont
ils sont touche-touche, tu vois.
Juste derrière,
Ils sont juste
là.
derrière.
Ouais.
Voilà. Donc,
Deux points, je crois.
En fait, cette course-là, c'est de la magie, ça n'arrive jamais normalement. L'équipe n'y est pour rien. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire dans cette perf au
Ouais,
Brésil?
alors il faut quand même. En fin de saison, il y a eu un vrai progrès et quand même une solidité relative. C'est-à-dire, vu d'où ils partaient, ils n'étaient pas très solides. Mais on voyait quand même qu'au lieu de faire 16-17, on était plus sur du 12-13, 11-12. Il y avait une petite remontée très légère. Et peut-être que sans cette petite remontée, même avec les conditions, ils n'auraient pas réussi, tu vois, surtout en fin de course quand il pleut moins.
Oui.
L'Alpine a tenu, tu vois, ce qu'elle n'aurait pas été capable de le faire en début d'année, je pense. Mais là où tu as raison, c'est que oui, voilà, c'est des courses comme ça, c'est quoi? C'est une fois même pas une fois par an, c'est une fois tous les 2-3 ans. Voilà, c'est la course folle, c'est la météo,
Et puis parce que t'as deux cracks au volant,
Et
hein,
puis voilà,
aussi,
après, c'est
hein.
ça la dernière chose, c'est qu'il y avait aussi tout pour planter les deux bagnoles, et puis non, quoi. Donc, ils ont su maximiser à ce moment-là, ce qui leur sauve la saison, et c'est ça qui est magnifique. Et je comprends Paul quand il met la moyenne, parce que c'est vrai que de là où il partait, tu te dis, c'était tellement impossible à imaginer que le réaliser et finir cette course là dans les derniers tours à résister, à pas faire une faute, les deux. Enfin bref, c'est magnifique, magnifique.
Ouais, puis sans ces
Après, vous avez.
conditions-là, messieurs, Nico, je te coupe, sans ces conditions-là, Max
Vas-y,
Verstappen
vas-y.
n'aurait pas non plus gagné ce Grand
Oui.
Prix du Brésil, hein, lui qui partait quand même en fond de grille. On aurait pu voir sur une piste sèche peut-être un doublé des McLaren qui aurait repoussé un petit peu le sacre du pilote néerlandais. Donc
T'as
évidemment,
raison. Je
les
suis
conditions
d'accord avec
étaient.
toi, Apollo. Mais ce que je veux dire, c'est que le début de saison de la Red Bull fait aussi que Verstappen, il en est là. Il y a quand même un gage de solidité dans les perfs de la Red Bull de Verstappen. Bien sûr que cette course, elle est hors du temps et tout ça, mais il y a un peu plus de gage de solidité chez Red Bull que chez Alpine avant cette course-là, tu vois. Alors après, c'est vrai que je suis en train de regarder les qualifs. Derrière Gasly, il va chercher deux Q3 magnifiques. À Las Vegas, il fait P3 en qualif. Il est P5 à Abu Dhabi. Donc P11, il est où? Il est où? Il est P11 au Qatar, tu vois. Donc bon, il y a du mieux, je suis d'accord, il y a des évolutions. Mais je sais pas. Et n'oublions pas aussi, Polo, que l'objectif d'Alpine en début de saison,
Oui.
c'est quand même d'être la quatrième force un petit peu du plateau, cinquième force du plateau. Hein, donc t'es un peu en deçà de tes objectifs quand même.
C'est pour ça qu'on leur donne 10, hein, entre 8 et 10 de moyenne générale sur la saison. Parce que, évidemment, s'il y avait eu peut-être plus de podiums et pourquoi pas un top 5 à l'arrivée, bien Alpine aurait progressé. Mais c'est vrai que Louis parlait de la performance et Alpine a clairement progressé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Pierre Gasly en fin de saison. On espère, au vu des améliorations de cette fin de saison 2025, enfin 2024, qu'en 2025, nous serons plus performant et cela donne de la confiance aux pilotes normands. Donc, encore une fois, c'est une bonne progression, peut-être pas assez rapide, mais une bonne progression de la part de l'écurie française.
Alors, il y a, si je vous écoute, une progression dans les évolutions, Louis. Par contre, après, si on se concentre encore sur le sportif, moi, il y a un truc qui me choque, c'est la gestion des pilotes et la gestion du cas Esteban Ocon.
Ah bah.
Les prises de position de Bruno Famin à Monaco, Ocon qui se fait complètement mais déglinguer après tout ce qu'il a apporté. Enfin, tu vois, ça compte aussi dans l'évaluation et au niveau humain,
Ah
ne
bah si
serait-ce
tu
que
rajoutes
juste
ce
sur le.
niveau-là, oui, on va changer la note, oui, ça c'est sûr. Je vais
Eh
la
ben ouais, mais
baisser
ça.
parce que je vais la
Mais
baisser drastiquement parce
alors
qu'il
là
y
je
a
valide, là je valide,
y a
oui.
pas que ça parce que t'as Bruno Famin qui voilà le traitement d'Ocon juste Ocon. Derrière t'as l'arrivée de Briatore et t'as le traitement d'Ocon post Bruno Famin en fin d'année qui est encore tout autant détestable si ce n'est pire. Faire repartir comme un paria, lui sucrer son dernier Grand Prix. Enfin, non, mais là, c'est zéro. De toute façon, Alpine, ces derniers temps, il faut quand même bien prendre le temps de regarder pour trouver des choses positives au niveau management, quoi. C'est assez dramatique. Donc, oui, là, la note, c'est deux. Voilà.
Est-ce que le principal échec d'Alpine cette saison, Polo, c'est pas ne pas avoir su gérer Gasly et Ocon en début de saison? Parce que, bon, t'es pas bon, mais les mecs, ils sont corporate. Tu sens qu'il y a cette tension qui monte entre les deux. Tu sens qu'à chaque fois qu'ils peuvent essayer de se passer en piste, de se frotter l'un à l'autre, ils vont le faire. Et puis bah forcément, l'inévitable survient, c'est-à-dire qu'à un moment, ils s'accrochent. Est-ce que tu vois sur ça, ils n'ont pas vraiment manqué quelque chose au niveau de la gestion des pilotes?
Oui, certainement, certainement. C'est vrai que, de toute façon, ils l'ont dit à demi-mot, hein, ce ne sont pas les meilleurs amis du monde. Hein. Ils se sont battus en piste. Mais je pense que là où vraiment le bât blesse, c'est l'arrivée, on l'évoquait, de Flavio Briatore, hein, qui a eu quasiment les coups des franges pour mettre eh bien, en place l'arrivée d'un nouveau pilote. Pour parler de cette gestion entre ces deux Français, ouais, difficile de se prononcer. Ils sont quasiment tous les deux aussi bons sur la piste, puisque lorsque l'on regarde un petit peu le bilan sur la saison, hein, que ce soit au niveau des qualifications en course, Esteban Ocon a eu bien, à 13 reprises la faveur des pronostics face à Pierre Gasly, et Pierre Gasly a eu la faveur des pronostics en qualification à 12 reprises, 11 pour Esteban Ocon. Donc d'un niveau purement sportif, je pense que les deux pilotes se valent. Effectivement, après, au niveau de la gestion, il y a beaucoup à redire. Et notamment cette fin de saison complètement, complètement folle, hein, non pas sur la piste mais en coulisses, avec, vous le précisiez, l'éjection, on peut le dire comme ça, d'Esteban Ocon. Il y avait peut-être mieux à faire, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Louis, mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer avec deux pilotes qui se connaissent quand même quasiment sur le bout des doigts.
Non, mais en fait, le problème pour moi, les gars, ça vient pas des pilotes. Ça vient du board, ça vient de la direction. C'est qu'à un moment, les mecs, tu dois les prendre avec toi. Tu dois leur dire l'important, c'est la marque. Vos différents, ok, vous êtes nos employés, mais on veut que ça fonctionne bien. T'essaies de crever l'abcès. Sauf que là, ils ont laissé monter le truc et tout ça. Et après, les mecs, ils se fritent. Et puis, dans les chiffres que t'évoques, Polo, moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est kiff-kiff sur les perfs. Faut quand même prendre en compte qu'à partir du moment où Ocon s'est terminé avec Alpine, on peut quand même se poser de sérieuses questions, Louis, sur le fait qu'il ait eu la même voiture que Gasly. Mmh. Tu vois, donc parce que quand tu le vois prendre le meilleur sur Gasly en début de saison et ramer à la 19e, 18e, 17e place sur la deuxième partie de saison, alors que Gasly commence à aller mieux et qu'il a trouvé de la perf. Tu vois, je sais pas, il y a des questions à se poser. Mais moi, je trouve qu'ils ont été très mauvais là-dedans, Louis, dans cette gestion des pilotes. Et puis, bon, après, derrière, l'arrivée de Briatore fait tout exploser. Mais même avant l'arrivée de Briatore, hein, quand même, c'était mal géré. C'est la cerise sur le gâteau, quoi.
Sur ce que tu dis, là où tu vois l'histoire de, il a sûrement pas eu les mêmes évolutions, la même voiture à partir du moment où on savait qu'il partait. Ça serait la seule partie qui me choque pas. On est en Formule 1, tu vois. S'il y a pas de voilà. Ouais. En revanche, sur tout le reste. Tu pouvais très bien lui dire, bah Esteban, on se sépare. Là, la Formule 1, c'est comme ça. Tu t'auras pas de nouvelles évolutions puisqu'on n'a pas les moyens de mettre sur les deux ou parce qu'on n'a pas envie. Enfin bref, que sais-je. En revanche, d'être clean sur tout le reste et de pas le. Ouais. Moi, je te dis cette fin de saison. Le gars, il a tenu l'écurie hein, depuis 5 ans quand même. Hein. C'est-à-dire que t'as Alonso qui, en plein mois de juillet, dit « Bah alors, c'était bien beau de me remettre en selle, mais tu sais, avec tout le storytelling, Renault, mon écurie depuis toujours, machin et tout. » Gars, au premier contrat de Lawrence Stroll, au premier chèque à 6-0 ciao. Ou 7-0. Allez, ciao les mecs. Donc c'est bien. Lui, il reste, il tient la baraque. Avec Pierre, ils se sont frités, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, c'est pas les premières tensions entre deux pilotes, comme le dit Nico. C'est au bord d'être là, de savoir faire. Et alors, la facilité de tomber à bras raccourcis sur l'un et de dire OK, nous sommes des blanches colombes qui avons fait une super voiture et ce nul d'Esteban doit se remettre en question. Oh, c'était pitoyable, surtout quand t'es au fond du trou comme ça.
Ouais, mais c'est... ça personne ne l'a cru.
Ouais, mais même en plus c'est ça, c'est-à-dire que personne n'est dupe, donc tu passes vraiment pour un flamiré, comme dirait Vincent Moscato. T'es là, tu te dis bah, Bruno, enfin il a peut-être perdu son poste ce jour-là lui aussi sans le savoir, parce que ça a vraiment été un bad buzz dans le paddock. Après bon, je pense que c'est pas un bad buzz qui te fait perdre ton poste ou pas, mais Ouais, c'est clairement, c'était une preuve de non-tenue de l'écurie et du projet. Et Briatore, bah, on va voir, il a peut-être l'avantage de faire peur à beaucoup de gens, donc ça va peut-être se tenir à carreau, mais ça va sûrement, comme à chaque fois, un peu imploser ou exploser avec lui, quoi.
Bon, là, on les défonce. Et ouais. on a raison de les défoncer, Paul. Mais paradoxalement, notre plus belle émotion de la saison, c'est peut-être ce doublé au Brésil avec Ocon deuxième et Gasly troisième. Enfin, j'imagine qu'en tant que Français, on a tous vibré, tous ceux qui nous écoutent, voilà, devant ce doublé incroyable. Donc, c'est pour ça que cette saison aussi, Paul, elle est très bizarre parce que t'as envie de les déboîter sur tout ce qu'ils ont fait sur l'ensemble de la saison. Et encore une fois, on va parler de l'arrivée de Franco Colapinto chez Alpine. Tu te dis que ça démarre pareil en 2025. Mais malgré tout, la superbe émotion du Brésil vient un peu tout atténuer, quoi.
Ben ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que avec peut-être, on l'a évoqué en fin de saison, peut-être la victoire de Charles Leclerc à Monaco ou le retour sur la première marche du podium de Lewis Hamilton au Grand Prix d'Angleterre. C'est vrai que ça a été au-delà de la course une émotion de dingue de voir ces deux pilotes français relégués loin au classement, terminer deuxième et troisième. Donc ouais, c'est pour moi honnêtement quasi normal que cette perf atténue un petit peu la déception de la première partie de saison. Et puis tu rappelais quand même aussi ses résultats en qualification. Pierre Gasly quand même s'est montré à son avantage à pas mal de reprises, hein, notamment ce top 3 en qualif aux États-Unis. Donc ouais. On gardera tous, je pense, les amoureux de Formule 1 et nous, petit Francis, ce double podium dans cette course folle au Brésil, qui restera, on le disait d'ailleurs, peut-être la plus belle course de la saison 2024, et peut-être l'une des plus belles courses de ces 5 ou 6 dernières années.
Ah ouais,
pas peur de le dire. Donc chapeau bas à ces messieurs qui nous ont fait rêver et qui, j'espère, continueront de nous faire rêver. Alors Gasly toujours chez Alpine et puis Esteban Ocon dans l'écurie américaine AS la saison prochaine.
Et moi j'ai une question très simple, les gars. Est-ce qu'elle vous fait encore kiffer cette équipe en tant que Français? Parce qu'on avait forcément un regard différent sur Alpine, parce que c'était l'écurie de chez nous, parce que la Formule 1 en France, on sait les difficultés qu'on a eues pour y revenir, pour retrouver des pilotes français. Là, on a deux vainqueurs de Grand Prix dans une équipe française. Le storytelling, il était parfait. Et franchement, moi personnellement, s'il n'y avait pas les pilotes, mais cette équipe, elle me procure rien, quoi. Tu vois, ouais. Je fais pas du tout kiffer.
Finito. Ouais, je suis un peu comme toi. Moi, l'année prochaine, je vais être à fond derrière Gasly, mais ça sera vraiment. Je pense que je me préoccuperai vraiment.
Autant
très
que
peu
en fait, tu seras autant à fond derrière Gasly que tu seras à fond derrière Ocon qui est chez As.
Ouais, voilà, ouais, à peu près, ouais, avec peut-être un tout petit peu plus parce que bon, bah, ça reste. Il y a quand même encore le sticker Alpine, tu vois, pour reprendre les mots de Jean-Luc, tu vois. Donc un petit chou, surtout que As n'est pas mon écurie favorite non plus, donc. Mais oui, si tu veux, ouais, pour comparer, on est à peu près à ça, quoi. C'est-à-dire que, c'est Enstone, Briator, enfin, tu vois, en plus, on est sur ce qui a fait que cette écurie française, ça a toujours été compliqué. C'est le fait qu'il y ait Enstone et c'est le fait qu'il y ait eu Briator. Bah là, on a les deux en même temps en ce moment, donc c'est pas ouf.
Est-ce qu'on peut, construire quand même, Paul, sur ce qui a été fait en fin de saison? Est-ce que tu sens que l'ambition de Alpine, là, sur ce qui arrive, ça doit être un petit peu mieux que ce qu'on a vu en début de saison dernière, là, avec ce qu'ils nous ont montré?
Je pense pas, parce que même si, encore une fois, Pierre Gasly disait que la progression de l'équipe lui avait donné confiance pour la saison prochaine, avec donc une certaine forme de performance, mais... honnêtement, avec la fin du programme moteur, hein, on le rappelle de F1 Renault, ce sera à la fin de la saison 2025. Hein, avant, évidemment, des nouvelles apparitions en 2026. Enfin, ce sera la F1 va changer d'air. Hein, on en a assez souvent parlé dans le paddock F1. Alors, Alpine est en discussion avec Mercedes peut-être pour 2026, mais c'est vrai que je vois mal dans cette dernière année qui sera certainement une année de transition, Alpine faire un bond en avant. Alors, encore une fois, on loue souvent les qualités de pilote de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon. Hein. Ils sont deux pilotes vraiment très très rapides, très très vite, comme on dit dans le jargon. Mais je vois mal, je sais pas ce que tu en penses, mais je vois mal Alpine continuer de progresser et d'aller briser ce top 5 qui va rester, à mon avis, en l'état en 2025. Et Alpine pourra au mieux, encore une fois, jouer la sixième place. Mais pour cela, il faudra quand même aller claquer quelques résultats. Tu évoquais les 33 points gagnés au Brésil. Ça a été sur une course, évidemment, ça a été sur une course. Alors, il y aura peut-être des faits de course en 2025, on l'espère. Après, mais ça semble compliqué quand même sur le papier.
On oublie un petit peu les courses derrière où quand même Pierre est là en qualif et en
oui,
course.
Oui, mais c'est pour ça que je te dis
des
ça.
Petits points.
Donc, des petits donc, points. Des donc, petits
donc,
points,
Louis. Ouais, ouais, non, mais on est d'accord. Mais en revanche, on va dire que là, ils font 6, certes avec une course, mais aussi avec plus de 6 mois à 0 point. Là, normalement, oui. ils sont à peu près revenus, on va dire, peut-être pas sixième en soi, parce qu'il y a eu un, mais voilà, on va dire 6-7, mais dès le début de saison. Donc, s'ils sont dans un mood un peu meilleur que les autres, enfin, en tout cas, ils partent sur à peu près sur la même ligne de départ, alors que l'année dernière, vous vous rappelez, je sais pas, à la présentation des voitures, la tronche d'Ocon et Gasly, quand ils ont soulevé les trucs, ils avaient dû avoir un briefing comme quoi, bon, bah, la voiture, elle était éclatée. Et les gars, ils tiraient une tête. Mais en fait, nous, on n'avait aucune idée de ce que la voiture pouvait donner. En revanche, à la seconde où on a vu leur tête, on s'est dit, oh là 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 là, mais ils ont fait un tracteur.
Ils savaient que c'était un tracteur. Ah ouais, c'est ça, ils savaient que c'était un tracteur.
Et donc, je me dis, bon, là, au moins, ils partent pas avec le tracteur. Donc, Sans voir, moi, je suis d'accord avec Paul, ils vont pas aller au-dessus, il y a un plafond de verre sur cette réglementation pour Alpine. En revanche, le fait qu'ils partent à peu près en même temps que les autres cette fois-ci, on peut peut-être espérer une bataille. Tu vois, Aston, ils finissent vraiment pas beaucoup mieux qu'Alpine a commencé la saison. Tu vois, donc je me dis, mais pour le coup, je suis pas un grand fan de Haas, mais là, la tournure que ça prend, l'arrivée d'Ocon, la saison solide, Komatsu.
Ça, c'est Toyota, ouais, le partenariat, voilà, tu vois, ça, un vrai truc, quoi.
Ouais. Donc, je pense que ça sera un concurrent direct. Ce sera marrant. En plus, peut-être qu'en piste, on aura Gasly, Ocon, chacun dans leur voiture. Et là, déjà que quand ils étaient dans la même, ils se laissaient pas de place. Là, je pense qu'il faudra pas être dans les parages si tu veux finir ton Grand Prix, toi. Tu vois, genre, si t'as un Lance Stroll dans le coin, c'est sûr, c'est mort. Mais Alpine à ce niveau-là, l'année prochaine, je crois en tout cas une saison plus correcte et plus solide sur l'intégralité, tu vois, genre des points régulièrement. Mais en revanche, peut-être pas un coup du sort comme le Brésil. Et donc à la fin, peut-être aussi encore pas plus de 5-6 au championnat. Pardon.
Les gars, notre team principal avait tout vu. Et on va lui, grand coup de chapeau à Jean-Luc, notre Jean-Luc Roy, qui nous disait, rappelez-vous, sur les derniers paddocks, attention avec l'ami Briatore, le contrat de Jack Doohan, à tout moment, il peut faire une dinguerie, aller chercher un autre pilote. Et qu'est-ce qu'on apprend en début d'année, il y a une dizaine de jours, Franco Colapinto, El Craquito, comme on le surnomme en Argentine, qui a marqué les esprits avec Williams au moment où il est arrivé en Formule 1. Il a marqué des points très rapidement. Après, la fin de saison était bien plus compliquée pour lui. Il a craché quand même 2-3 bagnoles. Mais il a signé et il a été pris par Alpine comme pilote de réserve. Ouais. Ça veut dire qu'il débarque avec ses 20 millions d'euros, les amis. C'est une somme colossale. Alpine a récupéré ce sponsor-là. Et ça veut surtout dire, les mecs, qu'on n'imagine pas un seul instant Franco Colapinto ne pas récupérer un baquet titulaire ultra rapidement.
Je pense que c'est... Et on peut mettre un petit requiem pour la carrière de Jack Doohan, malheureusement. Parce que,
non, mais le pauvre gars.
Ouais, le gars, ouais, c'est ça, comme tu dis, déjà. C'est-à-dire, le gars n'est pas encore monté réellement. Enfin, si, il a fait sa course. Allez, ici, ouais, ça marche pas ce que je dis. Il a fait sa dernière course parce que Alpine était tellement classe qu'ils ont viré au code. Mais sinon, le gars n'a pas encore été vraiment titulaire dans un baquet où c'est lui, dès le début, machin, avec son numéro partout et tout. Et c'est déjà sûrement fini au bout de ce qu'on lit sur... on n'a pas d'infos, mais ce qu'on lit, c'est 5 ou 6 courses, quoi.
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, on parle d'un contrat qu'il a signé avec Alpine, qui lui garantit un nombre limité de courses. Et on parle de 5 courses. Ce qui veut dire, Polo, qu'on dit aussi que si Briatore a voulu placer Doohan dans la voiture là, à Abu Dhabi et direct, c'était pour déjà en griller une et pour titulariser Colapinto au bout de 4 courses en 2025. Donc voilà, c'est ça la donne. C'est quand même complètement
dingue. C'est exactement ça, Nico. C'est un contrat sur donc les 5 premiers Grands Prix 2025. Il pourra donc en totaliser 6, tu le disais, avec la dernière course de la saison 2024. Et ce qui ouvrirait bien ainsi à l'option Colapinto, si Doohan ne donnait pas satisfaction. Alors attention, on verra bien. On rappellera que en qualification, sur sa seule course de disputée, il avait terminé 17e et 15e de la course. C'est un novice à ce niveau-là, évidemment, face à un Colapinto qui est capable du pire comme du meilleur aussi, de cracher quand même pas mal de ses monoplaces durant ses courses disputées. Mais c'est vrai que Ouais, on a déjà envie de faire une croix sur Jack Doohan et de voir déjà Colapinto qui n'arrive pas tout seul, tu le précisais, avec une belle valise et ses 20 millions d'euros ou de dollars. Et on peut penser qu'il sera vite sur la grille de départ. En tout cas, on peut s'en satisfaire parce que c'est quand même un sacré pilote hein, qui a montré qu'il avait de la vitesse, qu'il avait de la qualité, de la performance. Donc à voir, mais je pense que Jack Doohan pourra déjà devenir pilote réserviste de son écurie d'ici, après 5 ou 6 Grands Prix de disputés. On rappellera
Ben
que
ouais, parce
Sylvain
qu'on
démarrera
parle
mars prochain.
de. On sait que Colapinto arrive, lui, avec des sponsors américains monstrueux. Hein, je vous le disais, on parle de 20 millions d'euros et on parle de Miami. Miami, c'est, je crois, la sixième course de la saison 2025 ou cinquième. Et voilà.
Non mais ouais, non mais moi, bah, après bon, ça reste la F1, mais ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que tu sens que les dés sont pipés pour Doohan. Moi, ce que je comprends pas trop aussi dans la manière de faire, c'est du coup, qu'est-ce qui te pressait à officialiser ce gamin,
Ah oui!
alors que Colapinto, tu vois, tu l'as fait mi-janvier, début janvier, et ben tu l'annonçais en grande pompe, tu vois. Donc pourquoi t'es allé faire ça? Pour ce pauvre Doohan, bon après c'est lui il dit entre 5 courses ou 0, c'est toujours mieux hein, mais c'est quand même pas fou. Et surtout le truc qui me dérange vraiment, c'est que qui est l'agent de Colapinto en fait, tu vois, c'est que voilà, là des leads initiés là. Là non, on est bon après voilà, c'est du Briatore, mais limite tu vois Doohan quand ils l'ont annoncé, j'étais en mode genre pff, rien à faire. Autant maintenant, je suis à fond pour qu'il fasse des belles courses juste parce que
Non
ça
mais
va
c'est
tellement être sale pour lui ce qui lui arrive qu'au moins qu'il parte en brillant et peut-être en espérant de séduire d'autres gens d'ici là, quoi.
Non mais attends, imaginez les gars, il fait 5 courses de mutants Douane. Je
Ouais, devant Gasly. Et
devant Gasly.
là, Douane Colapinto. Alors là,
Je mettrais pas une petite
moi j'habite
piécette,
au
messieurs, quand
septième,
même.
je souhaite.
Ouais,
Non,
c'est ça. Non,
oui,
non, c'est
non.
ça. On parlait tout à l'heure, Nico et Louis, de la performance de l'Alpine. Je pense que elle restera donc à son niveau de fin de saison, mais Jack Doohan ne fera pas des merveilles. Alors déjà, je le vois mal devancer Gasly et en qualif et en course. Et c'est vrai que ce sera compliqué, mais on est tout simplement dans le monde impitoyable de la Formule 1, et avec évidemment aux manettes Flavio Briatore, ça risque d'être vraiment très compliqué. Comme le disait Louis, les dés sont pipés. Les dés sont pipés avant le début de la saison. Donc fais tes 5 courses, régale-toi, amuse-toi, et puis après tu laisseras gentiment ta place à Colapinto. C'est un
Voilà.
petit peu la trame de l'écurie Alpine avant le début de cette saison.
Et t'as
Horrible.
qu'à trouver des sponsors.
Si pauvre
tu
Jack,
veux rouler,
il me
t'as
fait de
qu'à me
la
ramener les
peine.
sponsors. Bah ouais,
Mais
c'est bah là. Après, tu sais, c'est Isaac Hadjar sur Canal qui disait à Julien Febbraud, ancien d'RMC,
oui.
il lui disait, moi j'ai peur, j'ai peur. Enfin, tu vois, ma carrière, elle peut se terminer demain aussi. Tu vois, genre, on sait comment ça se passe, encore plus chez Red Bull. Encore. C'est voilà, c'est il n'y a pas plus dur que d'entrer en Formule 1. Donc, bah
Oui, mais je suis d'accord, mais
certains des
Isaac,
Drugovic te
il a pas.
diront, tes Drugovic te diront, ouais, Jack, il en a déjà eu 5 lui au moins, tu
Non,
vois.
c'est sûr, non, mais
Mais
c'est clair. Et puis, il peut prouver quelque chose, du coup, il peut
ouais.
montrer ce qu'il vaut au moins sur la piste. Il y en a qui le font même pas. Ça, c'est une certitude, on est d'accord.
Mais
Mais
c'est
bien
ça
sûr
là.
que on sait que la carrière d'un pilote de Formule 1, du jour au lendemain, tu peux te faire couper, et pour plein d'autres raisons que le niveau sportif. Mais ce qui est terrible, c'est que si Isaac, il se fait couper, il a pas peut-être le mec qui est déjà derrière lui, qui a
Ouais.
été officialisé, tu vois, en grande pompe,
Non,
et
mais
surtout qui
clairement,
est le mec dont
l'enfer.
tout le monde parle depuis 4 mois, t'imagines?
T'imagines,
Enfin
tu
bon,
montes dans
c'est
ton
terrible.
baquet avec ton contrat, ton CDD là, et lui, il est
Ah
derrière là, en train de faire la bise à Fabio, ramener ses sponsors, et toi, l'enfer quotidien,
il est
quoi.
dans ton box, c'est lui qui roule
Ouais,
en essai à ta place, qui te fait les retours data et tout ça.
ouais, c'est
Régalade,
ça.
régalade.
C'est lui qui fait les selfies parce que toi, personne te connaît, alors que lui, il ressemble au petit Senna. Non, je te dis, ça va être un enfer.
C'est très dur. Les gars, parlons un peu de Haas. Haas qui est le plus petit budget de la Formule 1 et qui fait. Alors, sur le papier, ils sont derrière Alpine au classement cette saison. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que dans le monde des petits, AS réussit une meilleure saison que les autres. 58 points, hein. AS, Alpine en a 65, ils terminent devant RB, devant Williams, devant Steak. Et ils sont pas si loin que ça, mine de rien, d'Aston Martin. Hein. Il y a une trentaine de points d'écart pour l'écurie américaine qui a changé beaucoup de choses avec le départ de Gunther Steiner, voilà, l'arrivée de Komatsu. Il y a une vraie structure, on le disait tout à l'heure en en parlant, qui se met en place avec des partenariats, Toyota, l'arrivée d'un pilote comme Ocon. Paul, quel voilà. Moi j'ai un petit crush pour AS, j'avoue. Déjà parce que à l'époque Romain Grosjean, Steiner, il me faisait marrer et tout ça. Mais ça bosse bien cette saison et ça se structure surtout, Paul. Je sais pas ce que t'en penses, mais
ouais, ça. Alors je n'ai pas le crunch pour cette écurie, mais c'est vrai que Romain Grosjean.
Mais parce que vous aimez le bling bling, vous.
Non mais alors évidemment, mais tout le monde aime Ferrari aujourd'hui, Nico. Quand on aime la Formule 1, on aime Ferrari.
Moi aussi.
Mais moi j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Nico Hülkenberg, qui a quand même remporté les 24 heures du Mans avec Porsche, qui dispute quand même des saisons de Formule 1 depuis pas mal de temps, et c'est vrai qu'il n'a jamais mis un pied sur un podium. Donc de le voir marquer au total 41 points dans une petite écurie avec le plus faible budget de la saison, terminer quand même 11e au classement général des pilotes, c'est vrai que c'est un bon sentiment, avec un Kevin Magnussen dont on ne parle plus, hein, qui a terminé 15e avec seulement 16 points. Donc vraiment un gros écart entre Hülkenberg et Magnussen. Donc cette équipe a su tirer son épingle du jeu à son niveau pour terminer donc 7e du classement des constructeurs. Pas grand chose à dire de plus. On en attend plus, évidemment, parce que Esteban Ocon sera le pilote français de cette écurie américaine la saison prochaine. Voilà, un petit coup de chapeau quand même. Allez, je vais me jeter à l'eau, un petit coup de chapeau à AS, mais bon, rien non plus de
non, mais de toute manière, attention, yeux, hein. Non, mais pour ceux qui nous écoutent, on dit pas que AS va aller chercher le top 10, voilà, mais on est sur des équipes là, les équipes dont on parle. L'objectif, c'est que si déjà tu arrives à te qualifier en Q3 et tu arrives à ramener 1, 2, 3, 4 points, tu fais une belle course.
Ouais, et puis on parle d'une écurie qui a même pas 3 ans, 2 ans, était à 4 secondes.
Bah, ouais. Enfin, ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que c'était même pas Alpine cette année, c'était pire. Donc,
mais tu vois la courbe, si tu compares remontée, avec Alpine, quoi. Les courbes, elles sont opposées en fait entre les deux écuries. T'en as une qui a gagné courses il y a 3 ans et qui est en train un peu de s'effondrer et qui se bagarre, et t'as l'autre quand même qui est en train de progresser de saison en saison.
Et puis on sent que enfin ça bosse dans le bon sens. Donc on s'y moi ce que je te disais tout à l'heure, je commence à m'y intéresser parce que c'est toujours agréable quand tu vois un peu les fameux bunch of wankers de Steiner qui en fait ils sont pas plus bêtes que les autres et qu'à un moment ils ont enfin réussi à mettre leur village gaulois en ordre de marche et là c'est en train de bien prendre tranquillement, des sponsors arrivent, la fame arrive, deux gros pilotes. Ocon, tu ne l'attires pas il y a 2 ans. Hein. Déjà quand il y va en début de saison, on se dit quand même, ça fait pas rêver, machin et tout. Et finalement, pour le moment, on se dit que par rapport au baquet qui était un peu, on va dire, à dispo ou quoi, il est quasiment dans le meilleur. Regarde, Carlos, il est chez Williams, je préfère être dans la AS aujourd'hui. Hein.
C'est clair, je suis complètement d'accord.
C'est pas ce qu'on aurait dit il y a encore peu de temps, quoi.
Et puis surtout, tu vois, quand tu t'analyses un peu leur saison, sur les 9 dernières courses, ils vont 8 fois dans les points. Donc ils sont réguliers et sur la fin de saison, voilà, ça valide un peu tout le travail qui est fait. Et je suis totalement d'accord avec toi, Louis. Franchement, si tu as un baquet à aller chercher là actuellement dans le milieu de plateau là en Formule 1, tu préfères quoi, Paul? Tu préfères aller chez Alpine, AS, RB, Williams ou Steak? Alors Steak, c'est un peu différent, t'as le projet Audi. Mais même chez Aston Martin, tu vois. Après, Aston Martin, c'est peut-être un autre calibre, vous me direz, mais...
Ah bah, si moi, j'avais le choix, Nico, j'irais clairement chez Aston Martin aujourd'hui, ça c'est
rien que pour la voiture de fonction.
Non mais on est d'accord.
La petite DB7 de James Bond, ça ne se refuse pas, hein, effectivement. Mais c'est vrai que, on va mettre une petite pièce alors sur Alpine, et puis vous parliez d'Esteban Ocon, c'est vrai que le duo de pilotes sera quand même ultra complémentaire. et avec cette petite pépite, hein, Oliver Berman, hein, qui avait
fait ses débuts dans
le paquet de la Ferrari. Alors là aussi, alors là je valide à 100%. Alors c'est vrai qu'on a envie de donner sa chance au produit avec l'expérimenté Esteban Ocon et le très rapide déjà Oliver Berman. Pourquoi pas aller chatouiller un petit peu non pas le top 4 évidemment, non pas le top 5, mais peut-être aller batailler avec Alpine. Ouais, peut-être qu'ils seront sur un pied d'égalité en début de saison. En tout cas, c'est vrai que la marge de progression est aujourd'hui incontestable.
Mais moi, tu vas voir, moi je mets As. Bon, on se fera des épisodes prévus en 2025, on va voir un peu après les essais. Hein. Mais là, au moment où on en parle et où on enregistre ce podcast, moi je mets As devant Alpine l'année prochaine. Hein. En termes de perf, de structure, de ce qu'ils mettent en place, je sais pas. Hein, après, hein, on peut avoir des bonnes surprises côté Alpine, mais je le sens comme ça. Aston Martin, les gars, bah, tiens, on en parlait. Bon, saison 2024, alors je vais vous donner le classement. Aston Martin 5e, 94 points, t'es à des années-lumière de Mercedes. Et t'as Alpine qui est à 29 points de toi, derrière toi, à la 6e place. Saison 2024, un peu à l'image de 2023, Louis, où tu débutes bien, franchement. Tu vas chercher quelques top 10, t'as Fernando Alonso qui est là, et puis bah, mais plus rien. En fait, c'est... Franchement, cette voiture, elle est belle. L'écurie est prestigieuse. T'as un milliardaire, Stroll, propriétaire de l'écurie, qui a envie de gagner, qui a envie de faire des choses. Je sais pas, il se passe rien. Hein.
Ouais, non. Alors, ce qui est marrant, c'est que leur saison, comme tu dis, se ressemble. Sauf que celle-là, elle a la même forme que celle d'avant, mais en moins bien, si on imagine.
Mais en moins bien, ouais, exactement.
C'est-à-dire
ouais.
qu'au début, ils commençaient, ils tapaient podium. Et puis après, ils se rangeaient 4-5e. Là, maintenant, ils ont commencé 4-5-6e et ils se sont rangés 7-8, tu vois. Donc, mais c'est vrai que c'est une écurie qui a l'air de bien bosser en intersaison et de se contenter de ça ou de partir dans des mauvaises évolutions souvent en cours
ouais,
d'année.
Ouais, c'est ça, t'as pas d'évolution, t'as l'impression. Ou alors, ils sont
après,
à l'arrière à chaque fois.
En revanche, c'est peut-être le début de la fin de ça chez eux, puisque normalement, ils ont recruté The One, Adrian Newey, et que normalement, lui est censé justement amener ce qui leur manque à ce niveau-là, parce que c'est monsieur voiture qui vont vite, donc il va arriver. Je maîtrise mal son temps de jardinage. Est-ce qu'il a commencé à bosser sur cette voiture ou il fait que la prochaine?
Non. D'après les infos qu'on a pu avoir, hein, il rejoindra officiellement Aston le 1er mars, pour travailler sur le développement de la monoplace de 2026.
Okay.
Et lorsque l'on parle évidemment de ce changement de réglementation à partir de 2026, on peut penser que le nouveau directeur technique d'Aston Martin, qui est d'ailleurs actionnaire de l'écurie, va vraiment plancher sur la monoplace de 2026, et on peut donc s'attendre, ouais, messieurs, à voir Aston toujours naviguer entre la 4 et la 5. Avec
bon, après, j'imagine qu'il va leur faire, il va quand même avoir son petit feedback sur la voiture 2025.
Certainement, mais il n'y aura pas de révolution, Nico.
Mais quand tu vois un petit peu leur début de saison, ils prennent 10 points en Arabie Saoudite, 12 points en Australie, 8 au Japon, ils en prennent 14 au Canada. Et puis derrière, la fin de saison, c'est tu fais 0 aux États-Unis, 0 au Mexique, 0 au Brésil, 0 à Las Vegas. Tu termines la saison avec 2 petits points à Abu Dhabi. Fernando Alonso, en plus, qui a eu des galères là, dans ce triptyque États-Unis, Mexique, Brésil, petit pépin de santé.
C'est vrai,
il a fait des allers-retours en Europe. Là, ouais. Il y a des problèmes, je crois, gastriques, petite intoxication. Voilà. Lance Stroll, je sais même pas en fait. Lance Stroll, ce qu'on peut dire de lui là sur
cette saison
2024. En fait, j'ai aucune image de lui qui me marque.
Je veux dire, quand on voit le classement, hein, Alonso, ça reste encore aujourd'hui, évidemment, c'est un double champion du monde, le seul espoir pour Aston Martin, hein, qui a terminé 9e du classement avec 70 points au compteur, quand Lance Stroll n'en a glané que 24. Quand même, le différentiel est énorme, et on sait pourquoi Lance Stroll est toujours un pilote de Formule 1. Merci, papa, tout simplement.
Et d'ailleurs, je pense que si son père n'était pas propriétaire, tu vas me dire oui, c'est évident, mais. En fait, il se bougerait plus. C'est aussi le confort du poste qui n'a aucun enjeu. Je pense qu'il fait qu'il s'endort parce qu'on sait très bien.
Ah, tu penses ? Je sais pas.
Ouais,
je pense que c'est un gars qui a envie quand même, mais il est limité, tu vois, en termes de talent.
Ouais, mais il a quand même montré, tu vois, il a jamais eu de top bagnole et pourtant il a quand même fait une pole, d'un podium,
des
trucs.
Il a déjà fait mieux que ce qu'il a fait cette année, je suis d'accord avec toi.
Et donc, moi je pense aussi que. Ouais.
tu vois, demain il a une super voiture, on va le voir plus. Après, moi je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'il ait un talent incroyable, mais j'ai jamais souscrit à l'idée que c'était une pompe. Mais en revanche,
non, je suis d'accord avec
en revanche que ça soit pas un gros travailleur, parce que quand tu nais avec une cuillère d'argent dans la bouche, qu'en plus dans le seul moment où il y a de l'enjeu dans ta carrière, faut te battre, finalement tu te bats plus parce que papa a racheté l'écurie. Je pense que ça te met aussi dans un confort où c'est sûr et certain qu'il sent pas le feu aux fesses comme d'autres, tu vois, et que du coup il y a des moments où tourner en une 44-3 ou une 44-6, attends, on va pas non plus se prendre la tête, tu vois.
Oui, c'est sûr. Oui, puis bon, s'il quitte la Formule 1, il sera pas.
Il va arriver à boucler les fins de mois.
Lui, je pense qu'il aura pas de galère avec comme ça fait tout ça.
Et lui,
ça
pourra continuer à rouler en Aston Martin, messieurs. après sa carrière.
Et d'ailleurs, en reparlant de ça, je voyais sur Twitter un gars qui a dit ça. Il dit Ocon a reçu une Ferrari de. Une Ferrari de Haas, puisqu'ils sont le bloc propulseur et Ferrari venant de chez Alpine où il avait commencé la première année par une Mégane RS, je me souviens. Là, je dis, ah ouais, là, du coup, ouais, quand même.
Mais bonne bagnole, la Mégane RS.
Très bonne bagnole, mais à côté d'une Féfé, bon, léger.
Non,
léger.
Mais les gars, chez Ferrari, on a quand même la classe intégrale parce que Carlos Sainz, lui aussi, a eu un petit cadeau.
Ouais, magnifique cadeau.
De départ, sublimissime, qui a été livré à Monaco. Ça a été. Là aussi un beau cadeau, Esteban Ocon et Carlos Sainz, qui sont donc désormais dans des écuries de second plan, pourront quand même causer féfé le week-end avant les grands.
Non, mais c'est ça que je voulais vous dire pour parler un peu des perfs de Stroll. Moi, je suis d'accord avec Louis, je pense que c'est pas une pompe à vélo, le gars, bien évidemment, sinon il serait pas là. Et mine de rien, il a quand même fait des choses avec certaines de ses voitures. Mais je pense qu'il y a quand même le niveau global de la F1 est en train, tu vois, de s'améliorer fort. T'as quand même de moins en moins de pilotes qui sont là un peu par erreur quand tu vois un peu la guerre pour les baquets, les talents qui arrivent, les rookies qui arrivent. Et je pense que le gars il plafonne en fait, tu vois, tout simplement.
Le gars
il est en train de plafonner parce qu'il y a meilleur que lui et qu'avec une voiture qui est un peu difficile à piloter, il est à son niveau. Et voilà. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mes deux plus grosses déceptions de la saison niveau écurie, c'est Alpine et Aston. Franchement, Aston, il y a un moment où t'as envie de leur dire, les gars, le projet il se lance quand quoi. Tu vois, quand t'as cette force de frappe.
C'est ça. Alors moi, du coup, je suis parti du principe que là, au point où ils en sont, c'est 2026. Ça sert à rien de se battre avant. Donc j'attends rien d'eux avant la saison prochaine. Mais en revanche, si en avril-mai 2026, là, quand on est vers le Grand Prix d'Espagne et tout, ils sont pas à enchaîner les podiums. Là, je te rejoindrai à fond en mode les gars. Il faut y aller maintenant quoi, c'est plus possible.
Ouais, enchaîner les podiums, je te trouve très optimiste quand même Louis, hein, parce que c'est vrai que on peut penser que cette écurie va quand même partir encore une fois de loin, même si tout sera remis à plat en 2026.
À plat, ils ont beaucoup investi, ils ont piqué pas mal d'ingénieurs, ils ont pris Newey, ils ont toujours Alonso, ils ont bloc propulseur Mercedes.
Au moins te taper pour le top 5.
Voilà. Ça c'est minimum syndical Nico, avec les enjeux et les moyens financiers qui sont mis sur la table.
C'est ça, et après... Non, pour revenir juste une dernière chose sur les voitures des pilotes, en parlant de Ferrari, il y a la F40 de Norris qui a pris un...
Ah bah oui.
Qui a pris un petit pet.
Alors pour les auditeurs et auditrices du paddock RMC, allez voir un peu sur les réseaux.
Sur les réseaux.
Mais il vit à Monaco, Lando Norris, et il est parti en tête à queue tout seul avec sa Ferrari. Quoi.
Mais je crois que c'était pas lui. Hein. Je crois que
c'était lui,
je crois qu'il était à l'autre bout du monde en plus.
C'est ça.
Et ça doit être son. Je sais pas si c'est un mec qui la conduisait pour. Juste pour.
Il avait prêté à son beau-frère.
Ouais, ou un truc comme jamais. Ça. Le gars, il a mis un coup de gaz et il y avait un peu d'huile sur le bitume. Putain, elle a pas. Poum ! Allez hop ! 360, bim ! Et puis alors là c'est, ça fait de la peine. Hein.
Ah oui, dans le rail.
Parce que la Kia Picanto, tu la plantes, c'est pas grave. Mais alors la F40, merde.
On embrasse nos copains de Kia qui nous écoutent et qui veulent sponsoriser le podcast.
Mais
merci,
bien sûr,
merci,
et Alain Marchal qui roule en Kia Picanto, classe à Nice.
Mais ce qu'il faudrait en fait, messieurs, c'est mettre le V8 biturbo de la F40 dans une Kia Picanto. Alors là, on pourrait peut-être voir quelque chose d'assez phénoménal.
Ouais. Ça peut être rigolo.
On créerait une chaîne YouTube,
podcast,
ça s'appellerait
Vibroca. Bon, rapidement, la saison de RB, là, moi j'ai retenu un truc de cette saison de RB, l'écurie satellite de Red Bull, c'est quand même Paul que Yuki Tsunoda est le grand battu de l'histoire. On sait que c'est pas lui qui a eu le baquet chez Red Bull. Il sera épaulé par Hadjar la saison prochaine. À part ça, bon, voilà, RB, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était sympa, quand même, Ricciardo, Lawson. C'est quand même une équipe, à chaque fois, t'es content de la regarder, mais tu sais que c'est fin de grille, milieu de grille, voilà.
Ouais, plutôt fin de grille, même.
Ouais.
même si, encore une fois, c'est vrai que Yuki Tsunoda fait quand même une belle saison. Il finit 12e du classement des pilotes et glane 30 points, quand même. Et il a surclassé, évidemment, Ricciardo, même s'il n'a pas terminé la saison, hein, qui a seulement l'Australien marqué 12 points. C'est vrai qu'il avait dans le viseur le baquet de la Red Bull de Sergio Perez. Bon, mais il va repartir encore une fois avec cette écurie là ouais, pas grand chose à dire de plus. Capital sympathie, oui, bon, pour les performances, encore une fois, on est dans le milieu de grille, plutôt la fin de la grille, donc on ne peut pas s'attendre à monts et merveilles, même si ça reste quand même un pilote encore une fois très rapide, petit par la taille mais évidemment grand par le talent.
Bah, Yuki, il a pris 30 points sur les 46 de RB. Donc
et puis il en a pris une belle, lui aussi. On parlait de Douane, mais alors lui, pas simple.
C'est vrai que lui, la carotte.
Après, je pense qu'il la perd pas cette année. Il la perd globalement sur ses performances, sur son caractère et sur le 2-3 fois où on attendait qu'il confirme et où ça ne l'a pas fait. Cette année, il est. Enfin, je veux dire. C'est objectivement, normalement, tu vois, si t'es dans un truc un peu logique, il est clairement le numéro 1 d'Alpha, il cherche quelqu'un chez Red Bull, c'est pour lui, tu vois. Donc si on lui fait passer quelqu'un devant, c'est qu'il y avait des no-go un peu impossibles. Marco, je crois qu'il avait jamais vraiment digéré. Tu sais, tu te rappelles l'époque où il lui dit, toi mon coco, tu vas aller à Faenza, vivre à Faenza, ouais. et plus bouger à côté de l'écurie parce que ça va pas et tout. Et voilà, je pense que le Yuki, il a un grand champion, un grand pilote, c'est un tout. Et comme le dit Paul, il a un talent incroyable, mais il a peut-être pas le sang suffisamment froid et dans les grands moments pour avoir le droit à ce baquet, quoi. Et voilà, moi ça me fait un peu de la peine pour lui, mais on va voir ce que donne Liam Lawson.
Ça va être sympa la lutte avec Hadjar. Bon, on en parlera plus tard, mais franchement ça va être pour le coup ça va
j'espère être qu'Isaac va l'ouvrir en revanche, mais...
oui, bien, on l'espère tous. Williams avec un Alex Albon qui a fait ce qu'il a pu, voilà. Sinon, Williams, de toute manière, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul pilote. Bon, il y a Colapinto qui est arrivé sur la fin de saison. Ça a été un peu une petite attraction, la petite hype là à Bakou pendant 2-3 courses. Et derrière, on l'a dit, il y a eu sortie sur sortie. On en attend mieux l'année prochaine, bien évidemment, parce qu'il y a une line-up de pilotes quand même pour une équipe qui a terminé 9e du championnat. Paul, Albon, Sainz, franchement, ça. Autant sur la saison 24, il n'y a pas grand-chose à dire, mais en 2025, cette line-up, elle est cool.
Ah bah oui, c'est un duo de pilotes qui a de la gueule, évidemment. Carlos Sainz, hein, qui était courtisé quand même par pas mal d'écuries, lui qui a perdu son baquet chez Ferrari, avec Alex Albon, lui aussi auteur de bonnes performances. On peut s'attendre à les voir jouer peut-être devant As ou devant Alpine, en tout cas à leur niveau. Il faudra voir la performance, car on rappelle encore à tous les gens, ils sont de plus en plus nombreux, Nico, tu nous le rappelles souvent à nous écouter sur le podcast, que la réglementation et tout va changer en 2026, donc en 2025, oui. Ce sera le prolongement de ce qui se fait maintenant depuis quand même une, voire deux saisons. Mais c'est vrai que le talent de Carlos Sainz, on n'en parle plus, hein, c'est un pilote bankable, on le sait. Albon, lui aussi, est un très bon pilote, donc laisser sa chance au produit et les voir, pourquoi pas, progresser, aller titiller et aller chercher pourquoi pas le top 6 cette saison. Enfin, quand même sur le papier, Louis, je pense que ça sera quand même assez compliqué pour Williams.
J'aime bien tu vois les trucs classiques, les écuries comme ça qui ont une histoire, et donc j'attends leur résurrection. Je me dis qu'avec comment c'est Darlington là, où je sais plus, enfin ouais. Ceux qui les ont rachetés, avec tous ces changements, avec l'arrivée de James Wolff, de tout ça, je perds patience, dans le sens où je trouve ça aussi très long, et que je me disais mais mince quoi, ils vont, bon après peut-être qu'ils partaient quand même de très loin, parce qu'il paraît quand même que les infrastructures de chez Williams, elles sont. Enfin, quand il était arrivé, Wolff de Mercedes, il s'était dit « Wow, je suis revenu en 90, les mecs, je suis dans la F1 de papa, quoi. » Et donc y a clairement un temps de retard, en espérant que le retard se rattrape pour 2026. Il reste quand même
avec une base de supporters, avec un nom, donc ils peuvent avoir des sponsors. Ils ont toujours un bloc moteur qui voilà, ils seront chez Merco, donc c'est bon. Donc on est vraiment sur une écurie qui peut ressusciter. Et moi j'attends que ça en soi, mais j'y crois pas une seconde pour la saison qui arrive.
Ils sont loin. Hein. Alex Albon, là, il a fait une petite déclaration à la presse. Là, il a dit on est encore quand même, ouais, on n'est pas encore au point. Tu regardes les perfs en 2024, c'est seulement 5 qualifs en Q3. Le talent d'Albon a réussi à compenser certains trucs, mais tu sens qu'ils sont quand même loin de tout le monde. Est-ce qu'on se fait un petit débrief de la saison de Sauber?
Qui, pardon?
Sauber, oui.
Ah, les gens qui sont un demi-tour derrière, là.
Bah oui. Non mais non, c'est bah, vrai que dans
les voitures dans cette de sécurité 1, inversées toujours
dans,
derrière.
Dans cette Formule 1 où toutes les écuries maintenant se tiennent en 8/10e, t'as quand même Sauber pour nous rappeler que voilà, le cancre du plateau, il est là quoi. Et ça c'est ils sont là pour cause. Ça nous fait du bien des fois, hein. Ça nous permet de mettre des tirs un peu gratuits aussi,
voilà.
Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, Sauber, c'est 4 points cette saison. Voilà. Marqué à l'avant-dernière course.
Ouais, c'est surtout ça. Après, avec Guan Yu Zhou qui marque les points, Bottas qui pourrait les marquer mais qui finalement les marque pas, ça aussi ça m'a fait de la peine. J'aurais au moins aimé, il quitte pas vraiment la F1 mais bon, il quitte la grille, qui marque des points quand même pour partir. Mais ouais, 4 points à l'avant-dernière course, une écurie absente de tout quoi, absent en dehors sur la piste. Je crois qu'ils sont tous dans l'expectative en fait, ils sont tous un peu dans le formol en attendant que le projet Audi se lance à donf quoi.
Ouais, c'est ça.
Et on pourrait peut-être éviter cette purge, Nico, à nos auditeurs.
Oui, de toute manière, on va basculer sur quelque chose de bien plus sympa. J'avoue que je ne comptais pas faire plus de 37 secondes. Hein. Je ne vais pas vous mentir.
C'est toi le boss, Nico. On fait autant que tu veux. Hein.
Sur quand même ce qui nous fait vibrer. Ah, les petits papillons dans le ventre, on connaît ça. Des fois. Là.
Ah, j'ai liké tout.
Ah oui, t'as tout liké. Non mais c'est incroyable. On a vu les amis, les débuts de Lewis Hamilton avec la Scuderia Ferrari. Ça y est, Lewis est officiellement un pilote Ferrari après 18 saisons à ne piloter des monoplaces, que des monoplaces qui avaient un moteur Mercedes, McLaren, voilà. Il est arrivé à Maranello dans sa nouvelle équipe lundi et la classe. Il pose devant la maison d'Enzo Ferrari. C'est sorti là avec en plus sapé Lewis Hamilton, on connaît là, tout de noir vêtu, et puis derrière il enfile la combinaison rouge, les premiers tours sur le circuit de Fiorano là à côté de Maranello. C'est un truc quand même de dingue, lui, de voir Hamilton là. On a vraiment pris un petit peu la teneur de ce qu'annonçait cette saison 2025 avec Hamilton en rouge, franchement.
Clairement, on va pas se cacher, ça fait un an qu'on attend ces images. On se l'était dit dans les débuts du paddock, avec cette nouvelle, cette déflagration qui vient d'arriver sur la F1, on avait envie de skipper la saison 2024 pour voir ça. On y est. Moi, je boude pas mon plaisir. Je pensais pas que ça. C'est vrai que quand j'ai vu la photo, tu vois, je me disais, on va peut-être pas trop en faire non plus. C'est ça. Et au moment où tu vois la photo, tu fais oh, papy, comment c'est classe. Avec pareil, encore la petite F40 sur le côté, ça passe toujours bien. La maison de Maranello, mythique. Ensuite, le lendemain, tu as le droit à la tenue, le casque jaune mat, bam, bam et tout. Non, il y a tout, ils font ça hyper bien. Et donc, dans cette intersaison où on cherche toujours des petits trucs un peu croustifondants en F1 parce qu'il ne se passe rien. C'est vrai que c'est sympa à suivre. Après, faut pas non plus trop mettre d'importance à ça. Maintenant, on a hâte des essais et du premier Grand Prix, surtout quoi, pour le voir au volant dans un Grand Prix. Quoi.
Non, mais Paul, c'est la magique. Prise de contact, déjà ce n'est qu'une prise de contact et en effet il s'est rien passé, il a roulé en plus avec une F1 de 2022, ça lui permet de faire des bornes et c'est surtout, je crois, pour comprendre un petit peu le fonctionnement, l'écurie de Maranello.
Les boutons.
voilà, les boutons un peu sur le volant.
Ouais, puis aussi peut-être pour contenter quand même tous les tifosi qui étaient présents. Hein,
bien évidemment, bah, médiatiquement ils ont fait le taf. Hein.
De Fiorano, parce que c'est vrai que tel un empereur romain, hein, il y avait Jules César, il y a aujourd'hui Lewis Hamilton. Alors on a eu le Baron Rouge avec Michael Schumacher, mais je pense qu'aujourd'hui l'aura de Lewis Hamilton dépasse largement l'ancien septuple champion du monde allemand. C'est vrai que c'est mythique, c'est déjà mythique. Louis parlait de cette couleur de casque magnifique. Il était beau à son arrivée, tel un chevalier.
Un chevalier, ouais, c'est ça.
Ouais, la maison du commandator et d'Enzo Ferrari. Enfin, je veux dire, le spectacle était déjà là. On espère qu'il le sera sur toute cette saison et en 2026. Mais c'est vrai que tout le monde attendait ça. Tout le monde attendait ça. Et on a déjà hâte d'être au premier Grand Prix, les premiers tours de roue pour voir ce que va donner Lewis Hamilton. Parce que quand même, il y aura évidemment de la performance à aller chercher. Ils ont été à deux doigts de gagner le titre constructeur cette saison. Charles Leclerc va lui aussi être remonté. Hein. Il va devoir faire face à l'un des meilleurs pilotes de tous les temps. Donc, c'est
la cohabitation. On va voir.
Ça moi, aussi, ça
je
aussi.
Je voudrais pas que ça fasse trop de mal à Charles non plus. J'aimerais bien que ça rende les deux, tu vois, au top, les deux meilleurs, mais pas que ça.
Ça va être incroyable.
Parce que Charles, enfin, c'est pas qu'il vieillit, hein, mais c'est que ça va faire quand même 5 ans maintenant, et le petit prince du rocher, il en est toujours qu'au petit prince du rocher, quoi. Donc. On commence aussi
Va falloir que ça bascule. Ouais. Mais on en parlera de toute manière dans les previews qu'on va faire de cette saison 2025. Mais clairement, il y a un moment, Charles Leclerc, le chrono tourne. Et il le sait. Il le sait. Il s'en cache pas.
Non, mais de toute façon, lui, il se cache de rien. Mais c'est, moi, je dis ça pas parce que je pense qu'il ne fait pas les choses. Hein, il les fait.
Ouais.
C'est juste que c'est l'histoire qui est écrite depuis toujours. Moi c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Charles Leclerc, champion du monde. Le filleul de Jules Bianchi, le monégasque chez Ferrari, qui va tout ça, tu vois. L'histoire est magnifique, le Golden Boy, enfin, il y a tout. Mais c'est vrai que tu as aussi, du coup, envie de voir le 8e titre d'Hamilton chez Ferrari, machin et tout.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que Charles Leclerc ne voyait pas, peut-être d'un très bon oeil, l'arrivée de Lewis Hamilton. Hein.
Ouais, je pense que.
D'avoir Carlos Sainz en tant que coéquipier, qui est un bon pilote, mais Charles, quand même, en performance pure, est peut-être meilleur, et certainement meilleur que Carlos Sainz. Et là, les dés sont jetés et redistribués à l'orée de cette nouvelle saison.
Ils sont pas
pipés. Lewis Hamilton a dit. Non, les dés ne sont pas pipés, en effet. Lewis Hamilton a écrit. Il y a des journées dont vous savez que vous vous souviendrez toute votre vie, celle d'aujourd'hui. Mes débuts en tant que pilote Ferrari, ça en fait partie. Voilà, Lewis.
Ouais, alors lui, c'est souvent dans les déclarations tarte à la crémasse.
Mais comme dirait Alex Caldi, notre ingénieur, c'est Sir Lewis Hamilton. Voilà, c'est tout. C'est ce côté classe, british et tout. Moi, c'est extraordinaire. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, les amis, parce qu'on reprend notre rythme d'un paddock par semaine, bien évidemment. Parce qu'il se passe pas grand-chose en Formule 1, mais quand même, il y a de l'actu tout le temps, moi, j'ai l'impression. Il se passe toujours des trucs. Et puis, on peut compter sur Alpine pour casser le contrat d'un pilote la semaine prochaine. Enfin, voilà, c'est énorme. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment partager tous les épisodes du paddock RMC. Que si jamais vous avez raté par exemple le podcast après le Grand Prix du Brésil, ce Grand Prix de Zinzin, il est encore dispo hein, sur toutes les applis de téléchargement, sur rmcsport.fr. Et n'oubliez pas de nous mettre une petite note bien sûr pour continuer à faire vivre ce podcast. On était ravis de vous retrouver en 2025 et de clore cette saison 2024 parce que ça y est, c'est derrière nous. On a débriefé tout 2024 et dès la semaine prochaine, on va se projeter un petit peu sur ce qui se passe en 2025. Ciao, ciao les gars, bye bye.
Salut.
Le paddock RMC.